Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore en ce dimanche ensoleillé. Alors, il fait pas aussi chaud que la semaine dernière, mais en tout cas, on profite encore de ce temps pour pouvoir être là. Effectivement, nous mettre aussi à l'écoute du Seigneur. Et je commencerai par un petit sondage, un bref sondage parmi nous. D'abord, combien d'entre nous, à main levée, suivent régulièrement l'actualité, ce qui se passe en France ou ce qui se passe dans le monde? Combien d'entre nous? De manière régulière? Ouais, en tout cas, c'est une majorité. Combien d'entre nous trouvent qu'il y a trop d'injustice dans ce monde? Visiblement pas tous, mais quand même la majorité. Combien d'entre nous sont indignés par toutes ces injustices? Une majorité, mais pas tous. Et combien d'entre nous prient pour qu'au milieu de toutes ces injustices, Dieu fasse quelque chose? La minorité, mais pas tous. Le texte que nous venons de lire me rappelle personnellement que je n'ai pas autant soif de justice qu'Habacuc. Je suis le premier à admettre que parfois j'ai fini par banaliser tout le mal qui se fait ici-bas. Le monde est ainsi, les hommes sont pécheurs, que puis-je y faire? Au fond, et on peut se poser la question, au fond, est-ce que je désire que le bien triomphe? Est-ce que je désire que justice soit faite? Bien sûr. Au fond, est-ce que je désire la fin de toutes ces injustices? Bien sûr. Pour ce dimanche et les deux suivants, nous nous mettrons à l'écoute de la parole de Dieu en nous arrêtant sur ce petit prophète de l'Ancien Testament. Alors, si on dit petit prophète, ce n'est pas qu'il était petit en taille, mais parce que son texte est court, trois chapitres, comparé à un Ésaïe qui en a écrit 66, ou Jérémie qui a rédigé 52 chapitres. Donc, un de ces petits prophètes, il y en a 12 dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est Habacuc. Alors, nous ne savons pas grand-chose de ce prophète, mais les indices que nous avons dans le texte, et déjà dès le chapitre 1, nous permettent un petit peu de situer à quel moment il a exercé son ministère. Vous l'avez entendu tout à l'heure lors de la lecture, on parle des Chaldéens, ou bien des Babyloniens. Et nous savons que historiquement, cette superpuissance de l'époque, ce peuple conquérant, s'en est pris à Jérusalem dès 605, avant notre ère. Donc cette prophétie date au moins d'avant 605, avant notre ère. Et à cette date, déjà, il n'y avait plus le royaume du Nord, le royaume qu'on appelait Israël, parce que les Assyriens, un autre peuple conquérant, étaient passés par là et avait dévasté ce royaume. Donc il ne restait plus qu'une partie du royaume qui est dans la continuité de la dynastie de David, ce royaume du sud qu'on appelle Juda. Et c'est donc à cette époque aussi qu'une puissance montante se fait connaître, les Babyloniens, qui ravagent tout sur leur passage. Habacuc a donc une révélation de Dieu avant l'arrivée de ce peuple conquérant sur son pays. Et nous le voyons dans notre texte dialoguer avec l'Éternel d'une manière sincère. Vous l'avez remarqué? Il parle sincèrement, de cœur à cœur, avec Dieu. Le prophète ose évoquer ce qu'il ne comprend pas. Pourquoi, alors qu'il y a tant d'injustices chez son peuple, Dieu ne fait-il rien? Dans le texte de ce matin, nous alternons entre les questions du prophète et puis les réponses que Dieu donne. Et nous allons nous intéresser aux uns comme aux autres, aux unes comme aux autres. Mais c'est surtout la réponse de Dieu à la fin de notre texte qui sera décisive pour nous ce matin. Dieu appelle les siens à lui rester fidèles, en particulier dans un monde où l'injustice demeure. Dieu appelle les siens, celles et ceux qui le reconnaissent, à lui rester fidèle, en particulier dans un monde où l'injustice demeure. Oui, c'est cette parole du chapitre 2, verset 4 que nous retenons d'emblée. Le juste vivra grâce à sa foi. Et avant d'en arriver là, eh bien, je vous propose qu'on puisse reprendre le texte depuis le début. En commençant par évoquer l'incompréhension du prophète. C'est vrai que tout à l'heure encore, en discussion, avant le début du culte, lorsqu'on discutait avec quelques frères, on évoquait l'actualité récente, on évoquait tout ce qui s'était passé, notamment samedi dernier, après la victoire du PSG, toutes les émeutes, le vandalisme qui a surgi, et on a trouvé ça profondément injuste. Et je pense qu'il est sain, S-A-I-N, il est sain d'exprimer son indignation face à de telles injustices. Peut-être que vous avez suivi aussi cette semaine l'affaire Liana. Cette préadolescente qu'on a retrouvée morte et dont le premier suspect semble être passé entre les mailles de la justice jusqu'à maintenant. Injustice ? Oui, totalement. Indignation ? Oui, totalement. Violence, injustice, méfaits, ravages, querelles, conflits, jugements corrompus, ce sont les termes qu'Habacuc emploie pour définir tout ce qui se passe à son époque dans le royaume du Sud, dans le royaume de Juda, là où se trouve Jérusalem. Il se passe tout ça, violence, injustice. Oui, nous parlons bien de ceux qui font partie du peuple d'Israël, avec qui Dieu a fait alliance. Et voilà ce qu'ils font. Ils se sont bien éloignés de ce Dieu. La loi que Dieu leur a transmise ne fait plus effet. La justice est complètement bafouée. On rend des jugements corrompus, injustes. Habacuc en est témoin et les membres de son peuple se livrent à cette violence les uns envers les autres. Et le prophète n'en peut plus de voir toutes ces injustices. Il n'en peut plus. Et que fait-il ? Eh bien, il crie à l'Éternel. Parce que dans ces circonstances, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il crie à Dieu. Il se tourne vers celui qui peut encore faire quelque chose dans cette situation. Et visiblement, il prie pas seulement une fois ou deux. Regardez le verset 2. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes ? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves ? Jusqu'à quand ? Si vous lisez assez souvent les psaumes, cela doit vous dire quelque chose, parce que cette question, elle revient assez souvent dans le livre des psaumes, où le psalmiste s'adresse à Dieu, prie Dieu et lui dit « Jusqu'à quand ? » Jusqu'à quand vais-je encore prier pour ce sujet, pour cette injustice que je vois devant moi ? Et le prophète exprime vraiment devant son Dieu ce qui est dans son cœur. Dieu ne semblait pas l'entendre puisqu'il ne répond pas. Dieu ne semble pas se préoccuper de ce qui se passe chez son peuple puisqu'il ne fait rien. Avons-nous déjà vécu quelque chose de similaire ? Où nous avons crié à Dieu à cause de l'injustice dont nous étions témoins ? Ou même victime. Nous avons prié encore et encore, et pourtant rien. Pas de réponse. Pas de changement dans la situation. Et je crois que ici, l'expérience d'Habacuc rappelle la nôtre. C'est du vécu, c'est authentique, ça ressemble à la réalité telle que nous pouvons aussi la vivre. Et le prophète continue avec ses questions, verset 3. Après jusqu'à quand, pourquoi ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? Pourquoi peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent ? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. Habacuc ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Dieu n'intervient pas pour arrêter le cycle de la violence ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là ? Face à toute la violence que peut connaître ce monde, tous les conflits qui existent, Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne rends pas justice? Après tout, Dieu n'est-il pas un Dieu juste qui aime la justice et qui déteste le mal? N'est-ce pas ce que nous confessons et reconnaissons? Et là aussi, combien de fois nous avons pu raisonner ainsi? Et en lisant ces questions, est-ce que vous vous dites que le prophète va trop loin dans ses mots? Est-ce que nous pouvons vraiment parler ainsi à Dieu? En lui disant pourquoi? Comment se fait-il? Eh bien, je crois, comme dans les psaumes, que précisément, nous voyons comment nous devons nous adresser à Dieu. Le Seigneur n'attend pas de beaux discours dans nos prières, ni que nous fassions mine que tout va toujours très bien. Si ça ne va pas, si nous trouvons que notre monde ne tourne pas rond, si nous crions à l'injustice, alors disons-le à Dieu. Si nous trouvons que, oui, il se commet trop d'injustices dans notre pays, disons-le à Dieu. Pourquoi? Peut-être que vous êtes témoin d'injustices qui se produisent sur votre lieu de travail. Vous voyez des gens qui sont lésés par d'autres. Ou bien vous voyez des patrons qui abusent de leur position. Peut-être que là où vous étudiez, vous remarquez aussi des injustices. Un esprit de compétition où tous les coups sont permis, y compris la tricherie. Et peut-être qu'à la maison, vous êtes témoin de scènes de violence, physique ou verbale. Jusque à quand? Pourquoi? Ce sont des questions qui peuvent nous venir et qui peuvent être posées à Dieu. Jusque à quand vais-je supporter ces injustices encore? Cela ne veut pas dire, si nous posons ces questions à Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu va répondre tout de suite, ni même qu'il va répondre à ces questions. S'il y a bien une question où nous restons sans réponse, c'est le pourquoi de l'existence du mal. Pourquoi le mal? Pourquoi l'injustice? Pourquoi Dieu permet cela? Eh bien, c'est une question qui reste sans réponse. En tout cas, on a beau lire et relire la Bible, on ne trouvera aucune réponse à cette question. Dieu ne donne, en fait, aucune réponse à ce pourquoi. Et nous devons l'accepter comme un mystère opaque. C'est une expression que le théologien Henri Blocher emploie pour parler de ce mystère du mal. Pourquoi le mal, nous ne savons pas. Vous le remarquez dans notre texte, Habacuc demande pourquoi, mais Dieu ne donne pas de raison et ne va pas répondre à ces pourquoi. Dieu ne se justifie pas. Il n'a pas de compte, il n'a pas de compte à nous rendre. C'est à nous de lui rendre des comptes. Alors sachons, comme le prophète Habacuc, dire à Dieu les choses telles que nous les vivons. Il est normal que l'injustice nous pousse à demander pourquoi. Le contraire serait inquiétant. Habacuc est indigné à juste titre par tout le mal qui se commet chez son peuple et il attend le secours de l'Éternel. Eh bien, comment Dieu va-t-il répondre? C'est ce que nous allons voir tout de suite à travers cette œuvre étonnante de Dieu. Vous le voyez à partir du verset 5, c'est Dieu qui s'exprime. L'Éternel va, après ce laps de temps assez long, où le prophète a longtemps prié, eh bien, il va enfin lui apporter une réponse. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu ne va pas donner la réponse attendue. Déjà, il ne va pas répondre au pourquoi, et surtout, il va dire quelque chose d'encore plus étonnant. Verset 5, « Regardez, traîtres, et observez, vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre, vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. » Les Judéens, ici, sont désignés comme étant des traîtres. Oui, ils ont tourné le dos à Dieu. Et ils vont connaître l'étonnement quand ils vont vivre ce que Dieu projette de faire. Oui, c'est Dieu qui va faire une œuvre inattendue, étonnante, même déroutante pour le prophète lui-même. Dieu va faire une œuvre et il dit aux humains de regarder. Regardez bien ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il va faire, verset 6 ? Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards, et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin, ils volent comme l'aigle lorsqu'ils foncent sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tous adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris. Et il se rit des princes. Il se rit de toute leur forteresse. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis, il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu. Voilà la réponse de Dieu à la prière d'Habacuc. Dieu est bien le sujet du verbe au verset 6. Je vais faire venir les Chaldéens. Et ce détail nous rappelle que c'est Dieu le maître absolu de l'histoire. Et que tout ce qu'on peut voir dans l'histoire des peuples, Dieu en a le contrôle. Il va faire venir les Babyloniens, ce peuple très fort et qui envahit tout sur son passage. Dans ces versets et jusqu'au verset 11 que nous avons lu, ce peuple nous est présenté comme inarrêtable. Un peuple qui s'abat sur les autres nations pour s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. Un peuple impitoyable et violent. Voilà ce que Dieu projette de faire. Et nous retrouvons au verset 9 ce terme de violence qui doit nous rappeler que Habacuc l'avait aussi mentionné lorsqu'il priait au sujet de son peuple et il disait qu'il y avait de la violence chez son peuple. Oui, Dieu fait venir un peuple violent pour châtier son peuple violent. Et les Babyloniens forment un peuple criminel et même idolâtre, c'est ce qu'on voit au verset 11. Lui qui voue sa force à son Dieu. Non pas l'Éternel, mais une idole. C'est donc un tel peuple, plein de mépris, qui n'a aucune crainte de Dieu, que Dieu va envoyer contre Juda. Étonnant, n'est-ce pas ? Étonnant que Dieu procède de cette manière-là. Et cette révélation, cette réponse de Dieu enfonce le prophète dans plus d'incompréhension. Déjà, il ne comprenait pas pourquoi Dieu n'agissait pas tout de suite. Mais là, il comprend encore moins pourquoi Dieu agit de cette manière. Habacuc a bien saisi ce que Dieu allait faire. Il a très bien compris. Ici, il le dit au verset 12. Les Babyloniens vont servir comme instrument du jugement de Dieu. Donc ça, il a compris. Mais comment est-ce possible ? Et Habacuc pose des questions, encore, verset 12. « N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel ? Tu es mon Dieu, mon saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple, et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi ? On retrouve ce pourquoi. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? La manière dont Dieu compte agir ne correspond pas à ce que le prophète sait de Dieu. Habacuc sert un Dieu qui est saint, un Dieu qui est depuis toujours, un Dieu qui se présente lui-même comme un rocher sur lequel il est possible de s'appuyer, sur lequel son peuple peut compter. Oui, il est tout ça. Il est ce Dieu qui ne peut voir le mal sans rien faire. Comment peut-il alors se servir d'un peuple qui est pire que son propre peuple ? Et nous retrouvons cette question du pourquoi. Non seulement ce peuple fait un carnage, il se charge de crimes, mais Dieu l'utilise pour exercer son jugement. Peut-être comme comparaison, pour essayer vraiment de saisir cela de manière encore plus présente à notre esprit. Si l'Allemagne nazie était encore là, et que ce peuple est utilisé pour finalement servir le jugement de Dieu, qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on en penserait ? Si Dieu nous donnait voilà, ce genre de révélation comme à Habacuc et nous dit « j'utiliserai l'Allemagne nazie pour juger », qu'est-ce qu'on en penserait ? Là, peut-être qu'on saisit un peu mieux ce qui est en train de se vivre et pourquoi le prophète est un peu déboussolé et ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Si Dieu est saint et juste, est-il possible qu'il puisse susciter de tels événements ? Comment Dieu peut-il utiliser un peuple aussi impitoyable pour exécuter ses plans ? Comment Dieu peut-il utiliser un peuple qui ne le craint pas ? Et que sont les humains comparés au Dieu qui les a créés ? Et Habacuc répond au verset 14, et il ose cette comparaison, « Eh bien, les humains sont comme des poissons ou des bestioles. » Et l'image de la pêche, eh bien, qualifie aussi ce que vont faire les Babyloniens. Car le Chaldéen, verset 15, les prend tous à l'hameçon. Il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens au l'honneur de sa nasse, car il obtient pour eux, par eux, une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié ? Cette superpuissance que sont les Chaldéens, aux ambitions impérialistes, est tout le contraire de ce qui plaît à Dieu. Et le prophète termine par cette question : qui va donc l'arrêter ? Sous-entendu, est-ce que Dieu va l'arrêter ? Et en réalité, j'anticipe déjà sur le chapitre 2. Dieu voit aussi le mal qui est commis par les Babyloniens et il va s'occuper d'eux. Mais nous y reviendrons la semaine prochaine. Donc, voilà, en voyant cette œuvre que Dieu annonce, ce jugement que Dieu annonce, eh bien, cette œuvre paraît totalement étonnante et incomprise. Et de toute façon, Dieu le disait déjà au verset 5. Il disait « Vous serez stupéfaits. » Vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. L'étonnement vient du fait que les Judéens n'avaient jamais pensé que Dieu emploierait un peuple impie pour les juger et que cela irait jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Et des siècles plus tard, eh bien, Paul cite ce même verset 5 d'Habacuc lors d'une prédication qu'il donne dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, on lit ça en Actes chapitre 13, il donne ce même avertissement à ses auditeurs. Si les Juifs de son temps ne mettent pas leur foi en Jésus, par qui le pardon des péchés est annoncé, Dieu fera aussi une œuvre tout aussi étonnante. Qu'ils ne puissent pas se croire à l'abri parce qu'ils sont du peuple d'Israël, s'ils ne mettent pas leur foi dans le Messie d'Israël. Dieu accomplira aussi son jugement. Et en effet, en l'an 70 de notre ère, le jugement divin s'est abattu sur Jérusalem. Les Romains ont saccagé la ville et ont détruit le temple. L'histoire se répète à nouveau. Et pour les mêmes raisons, l'incrédulité du peuple. Dieu avertit, dans sa bonté, Dieu avertit. Dieu fait preuve de patience. Dieu donne une chance pour que son peuple change de conduite et revienne à lui. Mais lorsque Dieu annonce son jugement, eh bien Habacuc sait, il sait très bien que les Babyloniens vont effectivement venir. Il sait que Dieu ne ment pas là-dessus. Et notez que Dieu ne va pas répondre une nouvelle fois au pourquoi de son prophète. Dieu n'a pas à se justifier. Dieu, notre Créateur, n'a pas à se justifier auprès de ses créatures. Henri Blocher a récapitulé les trois thèses que nous devons affirmer parce qu'elles sont dans la Bible, par rapport justement à ce problème du mal. La première thèse, c'est que le mal, et je le cite, est mauvais, totalement, radicalement, absolument. Il n'y a rien de bon dans le mal, quel qu'il soit. Il n'y a rien de bon dans le mal. Ça, c'est la première affirmation. Deuxième affirmation, Dieu est souverain, totalement, radicalement et absolument. C'est-à-dire que Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe dans l'univers. Et cela comprend aussi le mal. Et troisièmement, Dieu est bon, totalement, radicalement, absolument. Autrement dit, nous ne pouvons jamais attribuer à Dieu le mal ou une complicité au mal. Et il nous faut affirmer ces trois vérités qui sont dans la Bible. Que le mal est totalement mauvais, que Dieu est totalement souverain et que Dieu est totalement bon. Il s'agit de pouvoir tenir cela sans faiblir, parce que sinon nous nous écartons de la vérité biblique. Nous nous écartons de ce que Dieu nous dit de lui-même. Et je le redis d'une autre manière. Même en employant les méchants pour ses plans, Dieu n'est en rien complice du mal. Même quand Dieu utilise des méchants pour exécuter ses plans, il n'est en rien complice du mal. Ce n'est pas lui le responsable de toutes les tueries que commettent les Babyloniens. Ce sont les Babyloniens. Mais Dieu peut utiliser cela pour accomplir ses plans. Et si Dieu n'exerçait pas une telle souveraineté sur le mal, eh bien nous serions complètement perdus. Si Dieu ne pouvait pas arrêter le mal, autrement dit, il n'existerait pas d'espoir pour notre monde. Si Dieu ne se plaçait pas au-dessus du mal, il n'y aurait pas d'espoir pour nous. Mais Dieu est souverain, totalement, absolument. Or, c'est dans la mesure où Dieu peut se servir même des méchants pour accomplir ses plans que la crucifixion de Jésus a eu lieu. Plus tôt dans l'année, nous avions vu dans l'évangile de Marc que Jésus a été livré entre les mains de ses ennemis, qu'il a été condamné par le Sanhédrin, qu'il a été livré entre les mains des Romains qui l'ont crucifié, alors qu'il était innocent. Injustice, n'est-ce pas ? Injustice commise par les hommes, ou par les méchants, si vous voulez. C'est la description même du mal commis ici par les hommes à l'égard de Jésus lui-même. Mais puisque le Fils de Dieu est venu de son plein gré, et nous l'avons chanté tout à l'heure, pour prendre la place des pécheurs, eh bien c'est sur lui que le châtiment que nous méritions est tombé. Dans le plan de Dieu, le mal que les hommes ont commis à l'égard de Jésus en le condamnant et en le faisant mourir, Dieu s'en est servi pour le salut de tous ceux qui croient. Nous avons besoin de croire que Dieu est souverain sur le mal et qu'il peut utiliser même les œuvres mauvaises pour accomplir son plan. Autrement, nous ne pouvons pas croire en ce qui s'est passé au moment de la crucifixion de Jésus. Je vous avoue que le problème est épineux, mais il nous pousse à réfléchir jusque-là. Sans la souveraineté de Dieu, il n'y aurait pas de crucifixion de Jésus pour notre salut. Oh, comme ce mystère est profond, que Dieu agisse de cette manière pour manifester sa grâce et pour nous délivrer de sa colère. Et Henri Blocher écrit dans un autre de ses livres, enfin, je n'avais même pas mentionné le précédent, mais dans un de ses livres, Le mal et la croix, un livre que je vous recommande de lire, bon, il faut aussi s'accrocher, mais voici ce qu'il dit. À la croix, Dieu a retourné le mal contre le mal et réalisé la solution pratique du problème. À la croix, Dieu a retourné le mal que les hommes avaient commis contre le mal pour pouvoir vaincre le mal. Dans cette relation que le prophète a avec le Seigneur, il lui exprime ses interrogations. C'est pourquoi, c'est comment se fait-il ? Et c'est vrai qu'il ne comprend pas en fait la première réponse de Dieu à sa prière. Mais en fait, toutes ces questions qu'il pose à Dieu n'entament pas en fait sa confiance en son Dieu. Il continue d'avoir confiance en son Dieu. Il ne comprend pas, mais il continue d'avoir confiance. Et c'est ce que nous voyons dans les derniers versets. Enfin, en tout cas, versets du chapitre 2. L'appel à la fidélité. Malgré tout, c'est pourquoi le prophète s'attend à son Dieu. Voyez comme il s'exprime dès le verset 1. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » Comme s'il scrutait l'horizon du regard à la recherche d'un messager qui arrive, si possible avec une bonne nouvelle. Eh bien, Habacuc scrute l'horizon. Il guette la réponse qui va lui venir et que Dieu va lui adresser. Lui qui est dans un élan de protestation, il le dit au verset 1, lui qui est dans un élan de protestation parce qu'il ne comprend pas comment Dieu peut agir ainsi, il attend tout de même la réponse de Dieu. Et là non plus, comme je le disais juste avant, Dieu ne répond pas au pourquoi ou au comment se fait-il. Mais plus intéressant, alors que le jugement annoncé est inévitable, Dieu laisse une parole d'espoir. Au milieu du jugement qu'il annonce, il laisse une parole d'espoir. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Dieu n'en a pas fini avec tous ceux et celles qui espèrent en lui. Et Dieu révèle quelque chose concernant la fin. C'est ce que vous voyez au verset 3. C'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin. Oui, au-delà de l'invasion babylonienne, Dieu va intervenir en personne dans l'histoire. Et ce qui va nourrir l'espérance des Israélites, c'est ce que nous lisons dans la suite du verset 3. « Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. » Il ne tardera pas. Au-delà de l'invasion babylonienne, Dieu annonce qu'il va venir. En personne. Et en effet, Jésus est venu. Une première fois. Et il a inauguré cette période des derniers jours. C'est cette fin dont il s'agit. Par la croix, il a vaincu le mal, l'injustice et la violence. À la croix, Dieu s'est vraiment occupé du problème du mal. Et par la mort de Jésus et par sa résurrection, des hommes et des femmes pécheurs sont déclarés justes. Et Jésus reviendra une seconde fois pour juger les vivants et les morts et pour rétablir définitivement un règne de justice. Et ce jour-là, Dieu mettra fin à toute injustice. Est-ce que nous aspirons à ce que toute injustice disparaisse ? Ce jour viendra, Dieu le promet. Il viendra en personne. Et rien ne restera impuni. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte de cette manière-là. « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte. mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Celui qui doit venir viendra. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait bien référence au retour du Seigneur. Et dans cette attente de l'intervention décisive de Dieu, qu'il mette fin à toute injustice, comment les croyants sont-ils appelés à se comporter ? Eh bien, la réponse est au verset 4. Celui qui est en relation avec le Seigneur, celui qui cherche à lui plaire, autrement dit le juste, vivra grâce à sa foi. Dans le texte hébreu, le terme qui est employé dans ce verset 4 et qui est traduit ici parfois, signifie fidélité. Le juste vivra grâce à sa fidélité. Oui, c'est à la fidélité que Dieu appelle Habacuc et tous ceux et celles qui sont attachés à lui. Puisque Dieu annonce le jugement à venir et qu'il va lui-même venir, il ne faut surtout pas flancher. Il ne faut surtout pas se détourner de lui. Au contraire, Dieu appelle à rester attaché à lui. Celui qui reste attaché à Dieu dans ses circonstances, au milieu de toutes les injustices que ce monde peut connaître, celui qui reste attaché à Dieu aura la vie. Ce matin, l'appel est aussi pour nous. L'apôtre Paul a cité ce verset d'Habacuc pour montrer que ce n'est pas par l'obéissance à la loi que nous obtenons la vie éternelle, mais par le moyen de la foi. Oui, celui ou celle, autrement dit, qui reste attaché à Christ, aura la vie. Dans le texte de l'Épître aux Hébreux que j'ai mentionné, il est question de persévérance. Et peut-être que ce matin, nous avons besoin d'entendre que Dieu nous appelle à persévérer dans la foi, à continuer à lui faire confiance, à lui rester fidèle jusqu'au bout, même quand l'injustice demeure dans ce monde, même quand l'injustice nous pousse à dire pourquoi. Autrement dit, persévérer dans la foi, c'est finalement demeurer fidèle à Dieu. Et c'est dès aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, dans le monde qui est le nôtre, que les croyants ne doivent pas retourner en arrière, ne doivent pas retourner à leur vie d'avant, mais au contraire, croire encore et encore en Christ. Non pas seulement une fois au début de la vie chrétienne, mais tout au long de la vie chrétienne, jusqu'à notre dernier souffle, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le juste vivra grâce à sa foi. Notre salut, notre espérance ne repose pas sur un ensemble de concepts. Nous ne savons, ce n'est pas sur la base de concepts ou sur la base de croyances à avoir que nous pouvons espérer être sauvés. Mais c'est sur la base de ce que le Dieu qui nous aime a accompli pour nous. C'est parce que notre salut repose sur Dieu lui-même. Et donc c'est à lui que nous devons nous accrocher, quoi qu'il arrive, même au milieu de nos injustices. Et c'est vrai, je ne sais pas à quel point certains vivent ces pourquoi qu'ils ont peut-être intérieurement ou qu'ils pose à Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que dans notre expérience de la vie humaine, tôt ou tard, nous serons amenés à vivre de telles expériences et parfois à nous dire pourquoi. Et j'espère que dans ces moments-là, quand vous vous souviendrez peut-être d'Habacuc, vous direz « Oui, le juste vivra grâce à sa foi ». Notre Dieu est absolument digne de confiance, combien même nous ne comprenons pas tout ce qu'il fait. Peut-être que nous trouvons qu'il y a trop d'injustices dans ce monde, et j'espère au moins que nous sommes encore sensibles et capables de nous indigner face au mal qui se commet dans ce monde. Et ce matin, nous entendons l'appel du Seigneur à travers le prophète Habacuc. Continue de compter sur moi. Continue de me faire confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne sais pas pourquoi, même quand l'injustice est toujours là. Mais en réalité, mes amis, l'injustice ne sera pas toujours là. Les chrétiens ont une espérance solide. Et je terminerai avec les mots de l'apôtre Pierre qui font écho ici à l'appel de Dieu chez Habacuc. 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 13. « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est ce monde à venir que nous attendons avec impatience. Un monde où il n'y aura que justice. Et c'est Dieu qui le fera. Amen. Je vous invite à un temps de prière. En réponse à la parole de Dieu. Et peut-être que Dieu vous a interpellé sur le fait, effectivement, de persévérer dans la foi, malgré tout ce que nous ne comprenons pas ici-bas. Peut-être que Dieu vous a interpellé sur le fait de lui rester fidèle, parce que vous savez très bien que ce n'est pas toujours le cas. Alors je voudrais vous laisser un temps pour prier à ce sujet. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous savons, parce que nous vivons tous dans le même monde, qu'il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Bien des injustices qui ont lieu et nous ne savons pas pourquoi. Et nous ne savons pas pourquoi, eh bien, tu n'interviens pas dans ces moments-là. Pourquoi tu permets que telle ou telle chose arrive. Oui, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, mais ce matin encore, tu nous appelles à te faire confiance et à continuer à demeurer fidèle. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour croire en toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous mettes en mouvement pour que nous puissions encore une fois t'accorder notre confiance de manière absolue. Parce que c'est vrai, Seigneur, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne savons pas comment ça fonctionne, un Dieu bon et le mal qu'il y a dans ce monde, nous voulons encore placer toute notre confiance en Christ qui a donné sa vie pour nous. Oui, nous voulons continuer à marcher avec toi et nous voulons persévérer jusqu'au bout et malgré tout, jusqu'au jour où nous pourrons vivre sous ce nouveau ciel et sur cette nouvelle terre où la justice habitera. Amen.